Alors, je voudrais prendre juste un verset dans 2 Jean, le verset 8. Voilà. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Oui, je n'avais pas vu. Il me dit, mince, mais c'est bien. Mais on n'est pas si bien outillé chez nous, donc voilà. Ah oui, la prochaine fois, je ne mettrai pas ma tête en arrière. Alors, cette mise en garde, nous devons l'impliquer aussi bien dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église, et dans notre vie quotidienne. Prendre garde à nous-mêmes. Et cela me fait réfléchir et me fait penser à certains versets qui disent « Mettez en œuvre votre salut », qui dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon », qui dit « Ne croyez pas tout esprit, mais examinez s'ils sont de Dieu », et aussi, mais je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme les serpents et purs comme des colombes. Alors, ce que je viens de dire, on peut le résumer en cette phrase. Vous êtes responsable de vos choix, de vos engagements et de ce que vous semez en actes et paroles. C'est pas Dieu qui est responsable, c'est vous, c'est moi. Alors, la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est comment faire pour être juste dans mes choix, mes actions, mes prises de position? Seigneur, comment faire? La première chose, c'est lire la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose à faire. Mais la deuxième, je vais partir sur 2 pistes. La première piste, c'est soyez sur vos gardes de ce que l'on peut vous faire croire. En langage courant, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous entendez. Ne gobez pas sans discerner toutes les doctrines qu'on vous annonce. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois on ne sait plus trop bien où se tourner. Les églises poussent comme des champignons, peut-être pas ici, mais à Bruxelles, c'est terrible. Il y en a parfois 5 ou 6 dans la même rue. C'est compliqué, ça, quand même. Hein. Le dimanche, vous dites comment. Enfin, bon. Mais il faut être bien conscient que ce qui divise ne vient pas de Dieu. Si on utilise la parole de Dieu pour diviser le corps de Christ, il y a un énorme problème. Parce que la parole nous a été donnée pour unir, pour pardonner, pour grandir dans une harmonie d'amour. Et beaucoup trop de chrétiens oublient que l'ennemi de Dieu, je n'ai pas envie de dire son nom, mais vous savez qui c'est, utilise des leurres. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un leurre, c'est ce qui semble vrai. Parfois, sur les autoroutes, on met un agent de police, comme ça, en carton, et automatiquement, vous levez le pied. Hein. Ah ouais. Mais il est en carton. Donc, il ne peut rien vous faire. Mais l'ennemi aussi, parfois, utilise le texte biblique pour nous pousser à la faute, pour nous décourager. Parfois, pour nous faire douter. Parfois, pour qu'on divise. Et il a essayé avec Jésus. Si réellement tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi, ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne se blesse pas en heurtant quelques pierres. Il connaissait le psaume 91. Jésus ne s'est pas laissé prendre. Mais parfois on se laisse prendre. Parce qu'aujourd'hui, il va utiliser les mêmes ingrédients pour nous faire chuter s'il peut. Et il a commencé très tôt, avec Ève et Adam. Et puis parfois maintenant, c'est le fruit défendu. Alors parfois, il y en a qui se battent parce qu'ils disent que c'est une pomme. Vous pouvez toujours lire dans la Bible, il n'est pas marqué que c'était une pomme, il était marqué que le fruit était beau. Parfois, c'est le gros poisson de Jonas, la baleine. Jamais marqué que c'est une baleine, c'est un gros poisson. Ah, ouais, mais des fois, on se dispute pour ça. Hein. Comment ça, on t'a appris ça à l'école du dimanche? Une baleine? Mais c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est si important que ça? Non. Et puis, parfois, il peut aussi insinuer des choses. Il peut essayer de nous faire faire des choses que nous croyons qu'elles sont à la gloire de Dieu, et elles ne le sont pas. Et prends un exemple. Cet homme qui était chrétien, fervent chrétien, qui aimait Dieu, et il habitait dans une zone inondable. Et un jour, il a tellement plu que l'eau est montée. Alors, il y a eu un 4x4 de la police qui est passé, en disant, vous devez évacuer votre maison. Et cet homme, tellement convaincu de l'amour de Dieu, a dit, non, Dieu va me sauver. Amen. Et l'eau a continué à monter. Il était au premier étage, et là, il y a eu des pompiers qui sont arrivés avec un zodiac. Monsieur, venez. Non, Dieu va me sauver. Et pour finir, il est arrivé sur sa cheminée. Et là, il y a eu un hélicoptère qui est venu, qui a lancé un filin, qui lui a dit, « Venez, monsieur, non, Dieu va me sauver !» Et il s'est retrouvé au ciel, parce qu'il s'est noyé. Et donc, il a dit à Dieu, « Mais Seigneur, j'avais foi en toi. Pourquoi tu ne m'as pas sauvé, Seigneur ?» Le Seigneur dit, « Mais, le Seigneur ne va pas parler comme ça, mais tu rigoles ? Je t'ai envoyé les pompiers. » Je t'ai envoyé les policiers. Je t'ai envoyé un hélicoptère et t'as rien voulu entendre. Ça, c'est le malin qui a poussé cet homme à faire ça. Parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Mais Dieu est tout puissant. Et vous devez vous rendre compte de ce qu'il vous dit. Bien sûr que Dieu aurait pu le sauver de la noyade, ça c'est vrai. Mais on doit tout faire pour la gloire de Dieu. On ne doit pas faire ça pour nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques années, un chrétien en Amérique, il a pris la parole de Dieu au mot. Vous marcherez sur les scorpions, vous rentrerez dans des cages. Il est rentré dans une cage où il y a des lions. Il est ressorti, il n'avait plus de bras. Le Seigneur ferme la bouche, hein, la gueule des lions. Oui, il faut le remettre dans le contexte, s'il vous plaît. Et ça, pourtant, vous pouvez parler avec ces personnes, c'est des chrétiens convaincus, mais qui, à un certain moment, sont obscurcis. Alors, il y a aussi, et je prendrai ce dernier exemple par rapport à de faire attention à ce qu'on nous dit, dans les églises d'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, le vin de la table sainte est souvent remplacé par du jus de raisin. C'est la même chose dans mon église. Et parfois, ça crée des polémiques. Alors, je me suis dit un jour, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? En vérité, je vous le dis, que je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Ça, c'est dans Marc 14, 25. Et alors, j'ai pris plusieurs Bibles. J'ai pris la Derby, qui est quand même, on dit toujours, la base, une bonne traduction. Et c'est toujours le fruit de la vigne. Alors, le fruit de la vigne, c'est quoi? C'est le raisin. Et qu'est-ce qu'on fait avec du raisin? Qu'est-ce qu'on fait avec du raisin? Du jus de raisin et du vin. Ah oui, voilà. Il y a les deux. C'est comme la pomme. C'est comme la baleine. Parce que pendant des années et des siècles, eh bien, c'est vrai qu'on avait mis du vin. Mais la Sainte Seine, elle est pour qui? Pour chacun d'entre vous. Et si vous avez un frère et une sœur, et il y en a, moi j'en connais, qui ont été alcooliques, et qu'on sait très bien, alors c'est parce que je travaille aussi dans le milieu, on sait très bien que même si aujourd'hui ils ne boivent plus, parfois il suffit d'un petit peu, même par exemple si vous les invitez, n'allez jamais faire un coco vin, c'est très dangereux pour eux. Donc est-ce que vous allez refuser à ces gens-là la table sainte? Parce que la parole de Dieu me dit que chacun, au lieu de regarder à ce qui est propre, à ses propres intérêts, regardez plutôt aux intérêts des autres. Alors c'est vrai que chez nous, par exemple, dans notre église, on a pris du jus de raisin. Maintenant. Voilà. Parce qu'on avait, on le savait, on avait des frères et des sœurs, parce qu'il n'y a pas que les hommes, qui avaient un problème d'alcool. Alors vous me direz, oui, mais ça ne va pas, pasteur, parce que si Dieu les a bénis, si Dieu les a guéris, ils peuvent continuer à boire. Non, non, non. Dieu les a peut-être délivrés, Dieu les a peut-être remis sur le chemin, mais ce n'est pas à nous à les faire retomber. Et nous, on doit faire attention, parce que ça, c'est des petites disputes qui font que parfois, ça met de l'embrouille dans l'Église. Et qui est content quand il y a de l'embrouille dans l'Église? Mais pas Dieu. C'est l'autre. C'est vrai que, je dirais, l'Église d'où je viens a été bénie, parce que ça fait 45 ans qu'elle existe, et grâce à Dieu, il n'y a jamais eu de division, etc. Moi, je suis un peu souple, je pense. Enfin, parce que j'ai quand même été 28 ans là. Mais souple ne veut pas dire ne pas suivre la parole de Dieu. La deuxième piste est prenez garde à vous-même, plus aux autres, de ce qu'on peut venir vous dire, mais à vous-même. Ne devenons pas des pharisiens. J'aime bien ce passage de la parole de Dieu où tous ces hommes arrivent en disant à Jésus, il faut la lapider. Vous connaissez ce passage, hein, Jésus écrit. Est-ce que Jésus l'a condamné? Il lui a dit, va et ne pêche plus. Et au bien pensant, il a dit, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qui sont partis les premiers? Moi, l'ancien, bien sûr, parce que automatiquement je me rends compte, depuis 45 ans que je connais le Seigneur, la patience qu'il a eue avec moi. Les bêtises que j'ai pu faire. Après, les derniers ont été les jeunes. Automatiquement, ils avaient... Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, à notre comportement. À voir... Qu'est-ce que Jésus pense de moi? Parce que je ne peux pas non plus être impulsif, je ne peux pas non plus être intégriste, je ne peux pas non plus être je m'en foutiste. Non, je dois être juste. Je dois être juste par rapport à la parole de Dieu. Je dois pouvoir offrir aux autres ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? L'amour. Le pardon. Et à moi, en tout cas, ce que Dieu m'a le plus donné, c'est la patience. Parce qu'il a été patient avec moi. Vous imaginez, 45 ans de vie avec le Seigneur, 28 ans de pastorat, qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise? mais Dieu était toujours présent. Parce que l'important, c'est pas moi. L'important, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Je suis un farouche combattant de l'évangile de prospérité. Venez au Seigneur, il va tout vous donner. Une belle femme ou un beau mari. De l'argent, du boulot, pas de maladie. Moi, je ne lis pas ça dans la parole de Dieu. Je suis venu te réconcilier avec mon Père. Alors, je suppose que tantôt, il y aura la... on va passer pour la quête. Il y a toujours un petit verset magnifique. Donnez à Dieu, il vous le rend au centuple. Oh, Seigneur, je prends un billet de 50. Hop, centuple. Oh, ça va. Vous n'aurez jamais 50 fois 100. Jamais. Ben non. Mais il y en a qui se laissent prendre comme ça. Dieu nous aime. Alors, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est dans les psaumes, psaume 139. Sonde-moi. On a besoin d'être sondé par Dieu tous les jours. Vous savez, un chrétien ne doit jamais se prendre au sérieux. Parce que ce que vous faites, c'est par Dieu que vous le faites. C'est pas par votre capacité. C'est pas parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux. C'est parce que Dieu est là. Il vous met dans votre esprit ce qu'il faut faire. Ou pas faire, parfois. J'ai encore une petite histoire, c'est que un jour, il y a un grand prédicateur, mais... Allez, Billy Graham, on va dire, comme ça. On a eu d'autres, mais enfin, bon. Il arrive au ciel, et le Seigneur, bien sûr, l'accueille. Billy Graham, bonjour, bonjour. Et le Seigneur lui dit, viens avec moi dans une petite pièce. Et là, il y a des cadeaux. Et le Seigneur lui dit, tu peux choisir le cadeau que tu veux. Oh. Billy Graham, il se dit, avec tous les gens que j'ai pu sauver, enfin, entre guillemets, il va prendre le plus grand. Il prend une grosse boîte. Et Jésus lui dit, non. C'est pas pour toi. Tu dois en prendre une plus petite. Alors il y a Billy Graham qui dit, mais alors Seigneur, qu'est-ce qu'il va avoir une grande boîte comme ça? Qu'est-ce que cette personne a pu faire pour avoir un cadeau encore plus grand que moi? Qui est prêché pendant des années? Et Jésus de lui dire, tu sais, il y avait une vieille femme dans ton église. Et elle a passé des heures et des heures en prière. Pour que quand tu prêches, la parole touche le cœur des gens. C'est cette petite femme-là qui va avoir le plus grand cadeau. Alors, ce que je veux vous dire, c'est ne vous regardez pas les uns les autres. Moi, je suis pasteur, moi, je suis ancien, moi, je joue de la musique. Moi, non, ben, vous êtes à la place où Dieu vous a mis. Et vous êtes tous importants. Parce que tous, demain matin, ou d'après-midi, vous allez devoir témoigner de la force que Dieu vous donne. Vous allez devoir témoigner de l'amour que Dieu vous a donné. Ça, c'est l'important. Et c'est vrai que à un certain moment, nos anciens, des anciens, ils sont jeunes encore, mais enfin, ils sont quand même anciens, eux, ils peuvent prier pour vous. Parce que c'est vrai que quand on travaille, on peut prier, mais on est fort pris. Et parfois, on est pris dans des choses qu'on ne devrait pas faire, mais on les fait quand même. Mais à chaque moment de ma vie, je peux faire quelque chose pour Dieu. Et nos anciens peuvent prier pour nous. Peuvent prier pour que, lorsque le pasteur prêche, la parole que Dieu lui a donnée puisse toucher les cœurs. Ils peuvent prier pour l'unité de l'Église. Ils peuvent prier pour leur dénomination. Ils ont une force plus grande que nous. Parce que c'est par la prière qu'on arrive. Vous savez, dans l'Église, pour moi, l'important, c'est l'école du dimanche. Parce que si on ne leur parle pas bien du Seigneur, c'est parti. Il y a nos anciens qui peuvent prier pour nous. Et le pasteur au milieu, ouais, il est là pour nourrir l'Église, pour diriger l'Église. Et il faut prier aussi pour lui. Parce que c'est, quelque part, la personne qui va être attaquée. Je disais à celui qui a repris la responsabilité du pasteur, pastoral dans mon église, alors c'est vrai, c'est mon fils, mais c'est pas parce que c'est mon fils qui est devenu pasteur, hein, c'est pas quelque chose qui est devenu comme ça. D'abord, au départ, on voulait plus mettre de pasteur chez nous. Mais l'église, ils ont besoin d'une tête de turc pour aller l'embêter, pour savoir celui-là. Non. Donc, on a dû en mettre un. Donc on a dit, voilà, c'est toi qui vas être la tête de turc. Comme ça, de l'assemblée, ça va au pasteur, du pasteur, ça va aux anciens, du ancien, ça revient au pasteur, du pasteur, ça retourne à l'église. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, et j'ai bien aimé, c'est le pasteur, c'est un serviteur. C'est celui qui est entre le marteau et l'enclume. Et il faut beaucoup prier pour lui. Parce que c'est vrai que parfois on peut égratigner, on peut blesser, même sans le faire exprès. Mais dites-vous quand même bien que on a besoin de frères et de sœurs qui nous conduisent et qui nous éclairent. Voilà, alors, je pense que, moi je vais terminer là-dessus, je ne suis pas très long toujours, mais dites-vous bien que le jour et la nuit, demandez à Dieu d'aller avec la force qu'il vous donne. J'aimais bien, je ne connais pas le frère, j'étais assis à côté de lui, et le frère avec des cheveux tout blancs là, je ne le connais pas, mais je sentais une force dans sa prière. Je sentais, il a vécu ce qu'il a dit dans sa prière. Il a senti que Dieu était avec lui pendant les années de sa vie. C'est ça que vous devez sentir aussi. C'est ça que vous devez faire passer aux jeunes. Parce que c'est ça qui est important. C'est que quand la personne vous voit, mais vous avez comme toutes les autres personnes des difficultés, des problèmes, des deuils, des joies, on vit tout ça. Mais si de la maison est bâtie sur le roc, les vents sont venus, la tempête a soufflé, mais la maison a tenu debout. Pourquoi la maison tient-elle debout? Parce que Jésus-Christ est avec nous. Et je voudrais terminer par cette image que moi j'ai pu vivre très souvent dans ma vie. C'est dans des moments difficiles, je me voyais marcher sur le sable. Et je disais, mais Seigneur, où es-tu? Je vois que deux pas là. Les miens qui s'en font, Seigneur. Et Jésus de me dire, mais non. Oui, il y a deux pieds. Il n'y en a pas quatre. C'est parce que je te porte. Combien de fois Jésus a dû me porter? Très, 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 très souvent. Et c'est pour ça que, mes frères et sœurs, après 45 ans de conversion, après 28 années de pastorat, si je suis encore debout, c'est à Dieu que je le dois.